Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce samedi matin très frileux. C'est la journée mondiale de la radio, l'occasion de vous remercier de nous écouter toutes les semaines, cœur sur vous. Et aujourd'hui encore, plein d'infos tout à fait éclairantes dans Nous voilà bien. C'est de 9h15 à 10h sur RTL et c'est parti pour le sommaire. À compter du 1er mars, l'électroménager va se doter d'une nouvelle étiquette d'énergie. Oui madame, oui monsieur, mais qu'est-ce que ça va changer pour les consommateurs ? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso de RTL, va nous répondre. Les ventes de compléments alimentaires ont enregistré un record depuis l'apparition de la Covid-19. Mais sont-ils vraiment utiles ? Réponse avec Julie Martori, journaliste spécialisée nutrition et bien-être à Top Santé, partenaire de cette émission. Chaque seconde, près de 3 kg de pâtes à tartiner sont mangées en France, ce qui correspond à 300 000 pots par jour, rendez-vous compte. Alors, toutes les pâtes à tartiner se valent-elles ? Une quinzaine d'entre elles ont été mises au banc d'essai par Patricia Chiropoulos, journaliste en charge de la rubrique alimentation, à 60 millions de consommateurs.
C'est pratique, économique, et ça fait pas penser trop loin.
Alors pour ceux qui se demanderaient où nous sommes allés chercher ça, c'est grâce à Alexandra Prolexic, productrice de cette émission, qui nous a trouvé donc cette chanson, l'étiquette de Jehan Jonas, un chanteur des années 60. Voilà, si vous le connaissiez, vous pouvez effectivement vanter ses mérites sur les réseaux sociaux de Nous voilà bien. Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL, vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. On vous écoute évidemment tous les samedis matins. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous, Armelle. Dites-moi, les appareils électroménagers vont avoir dans 15 jours une nouvelle étiquette d'énergie. Alors, je l'ai appris d'ailleurs assez tardivement. Quelles sont les raisons qui motivent un tel changement ?
Eh bien, cette étiquette n'était plus du tout pertinente. Elle représente la dépense d'électricité et d'eau à l'usage des appareils électroménagers depuis 25 ans. Elle a été créée en 1995, mais elle a perdu de sa clarté parce qu'on a ajouté au fil des années des classes supplémentaires, les fameux A+, A++, A3+, chaque nouveau modèle étant plus performant que le précédent. Résultat, tous les modèles aujourd'hui sont classés A et un modèle A+, est en réalité le moins performant du marché.
Alors qu'on a l'impression que c'est une super note, quoi.
C'est ça.
Mais A+, c'est pas possible d'être le plus performant du marché.
Si, et ça, les consommateurs ne le savaient pas. Donc, on était très satisfaits d'acheter un lave-vaisselle A+, très économe. Oui, c'est vrai, comparé à ce qui existait il y a 25 ans. Mais en réalité, c'est le moins performant parce que la réglementation interdit de mettre sur le marché des modèles qui ne sont pas classés A. Donc, pour nous, consommateurs, cela devenait très illisible, voire trompeur. Cela n'avait plus de sens. Il était temps de remettre les compteurs à zéro avec cette nouvelle étiquette. C'est un nouvel instrument de mesure. Cela veut dire qu'on remet tout à plat, on supprime les A3+, et on revient à une échelle de A jusqu'à G, d'accord, du vert au rouge. Mais dans 15 jours, on ne verra même plus les produits A dans les rayons. La classe A sera volontairement vide pour laisser la place aux futurs produits innovants, qui n'existent pas encore, et donc pour laisser une marge de progression aux fabricants. Les modèles A3+, deviendront B ou C, et les AA+, deviendront F ou G. On n'aura plus du tout la même perception.
Mais cette nouvelle étiquette, elle sera obligatoire.
Oui, c'est une réglementation européenne pour inciter les consommateurs à acheter des appareils plus vertueux et pour pousser les fabricants à s'améliorer. Son objectif est de réduire les émissions de CO2 de l'Union et notre consommation d'eau et d'électricité globale. À l'horizon 2030, la nouvelle étiquette énergie couplée à l'interdiction de mise sur le marché de produits trop énergivores devrait permettre à l'échelle de l'Union de réduire de 46 millions de tonnes les émissions de CO2 et d'économiser l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle d'un pays comme le Danemark. C'est énorme, donc si chacun fait un petit effort, on peut vraiment faire des économies d'échelle.
Bah, en fait, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs.
Oui, enfin, au début, ça va être quand même très perturbant.
Ouais, c'est vrai.
Depuis le 1er novembre et jusqu'au 28 février, on est en période de transition aujourd'hui. Le distributeur n'a pas le droit d'afficher la nouvelle étiquette en rayon avant le 1er mars et le vendeur ne peut même pas en parler à ses clients pour les prévenir. Mais le fabricant, lui, doit apposer l'étiquette actuelle et la future dans le carton. Donc, c'est la surprise, c'est le Père Noël. Quand vous ouvrez votre carton aujourd'hui, vous découvrez la nouvelle étiquette énergie et là, vous tombez des nues. Vous pensiez avoir acheté un produit A3+, et vous vous retrouvez avec un produit B ou C. Donc, c'est la stupeur. C'est comme si vous aviez l'habitude d'aller dans un hôtel ou un camping 5 étoiles et que du jour au lendemain, il affichait 2 étoiles. En fait, rien n'a changé, sauf que ce n'est plus la même grille de notation. Donc, c'est un peu la même chose, c'est le même produit. C'est pas qu'il est moins bon, c'est juste que la règle de calcul est différente et elle est plus exigeante. Les modèles seront tous déclassés le 1er mars et j'avoue que ce sera un peu déroutant.
Ah bah tu m'étonnes. Et ça concerne tous les appareils électroménagers sur le marché ?
Alors non, pour l'instant, elle s'applique aux appareils produisant du froid, réfrigérateur, congélateur, cave à vin et aussi au lave-linge et au lave-vaisselle, sans oublier les téléviseurs. Mais l'étiquette énergie remaniée s'appliquera aussi aux ampoules et luminaires LED à partir du mois de septembre et les autres familles d'appareils sèche-linge, aspirateurs suivront à partir de l'année prochaine.
Et cette ancienne étiquette dont vous nous parliez avec tous les A, là, elle va totalement disparaître ?
Oui, à partir du 1er mars, la nouvelle étiquette devra apparaître dans les rayons et sur Internet et les magasins auront jusqu'au 18 mars pour se mettre en conformité et se débarrasser des anciennes étiquettes. Mais certains appareils, les plus anciens ou les moins performants, ceux qui s'apprêtent à disparaître du marché, pourront continuer à afficher l'ancienne étiquette jusqu'à la fin de l'année.
Ça va changer la donne, en fait, pour nos achats ?
Oui. La nouvelle étiquette énergie accentuera les différences entre les appareils. On pourra mieux comparer les offres concurrentes. Elle sera aussi plus lisible quand vous allez acheter un lave-linge ou un lave-vaisselle. Vous verrez tout de suite s'il est B, C ou G. Et cette nouvelle étiquette sera aussi plus précise. Elle va contenir plus d'informations puisque de nouveaux indicateurs vont faire leur apparition.
Ah oui, mais alors justement, elle va ressembler à quoi cette nouvelle étiquette ?
Alors je vais prendre la nouvelle étiquette d'un lave-linge de haut en bas. Tout en haut à droite, vous avez un QR code à scanner avec votre smartphone pour retrouver sur Internet toutes les informations concernant le produit. Ensuite, vous avez l'efficacité énergétique et donc l'échelle de A à G avec le segment de couleur du vert au rouge et la note globale. Après, vous avez la consommation d'énergie en kilowattheure pour 100 cycles. Donc, c'est la consommation d'électricité. Après, vous avez un bac pour notifier la capacité du lave-linge, 6 kilos, 7 kilos. Pour un lave-vaisselle, ce sera le nombre de couverts. À côté, vous avez l'horloge, c'est la durée du cycle. Et vous avez un robinet, c'est la quantité d'eau pour un cycle, le cycle éco le plus économe. Et enfin, en bas à gauche, avec un petit t-shirt, c'est l'efficacité d'essorage classée avec des lettres de A à G. Et en bas à droite, un petit haut-parleur, c'est le niveau sonore de l'appareil, les décibels, classés là encore de A à G.
Ah mais c'est vrai que c'est super important hein, de mesurer le bruit de nos appareils. On va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL, Armelle Lévy. On parlera de compléments alimentaires parce qu'on essaye vraiment de nous vanter les mérites des compléments alimentaires. Mais est-ce que ça sert à quelque chose en ce moment ? Et puis on parlera pâte à tartiner. Je sais que vous êtes gourmande, vous.
Oh, j'adore. Oh, mais franchement,
voilà,
j'adore.
Avec Patricia Chéropoulos.
Une petite tartine après, ça sera super.
On se tient. Allez, à tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
On est ensemble jusqu'à 10h, le rendez-vous info, conso et bonne humeur de votre samedi matin sur RTL. Merci pour votre fidélité en cette journée de la radio. Armelle Lévy est avec nous, on la retrouve dans un instant. Ensuite, on parlera des compléments alimentaires. Sont-ils indispensables ? Et puis, on parlera gourmandise, puisque Patricia Chéropoulos a mis sur le banc d'essai toutes les pâtes à tartiner. Mais pour l'heure, on poursuit avec la reine de l'étiquette, Armelle Lévy.
Branchez-moi, chargez-moi et c'est parti.
Et c'est qui la reine de l'étiquette ? C'est Armelle Lévy, parce que ça va changer hein, cette étiquette sur les appareils électroménagers jusqu'en 2022, on va dire, parce qu'il fallait la moderniser pour mieux comprendre à quel point nos appareils électroniques sont énergivores. Vous nous avez expliqué, Armelle Lévy, qu'effectivement les étiquettes se modernisent, hein, se mettent plus à l'image de notre société d'aujourd'hui, une société plus écolo. Et vous avez évoqué il y a un instant la durée du cycle éco, parce que c'est vrai qu'ils sont parfois super longs en fait.
Oui, c'est vrai que c'est un effet pervers. Pour les appareils de lavage, la réduction de consommation s'est faite au prix d'un allongement important de la durée des programmes. Pour utiliser moins d'eau et moins chauffer, on fait tremper plus longtemps, avec plusieurs rinçages, pour laver aussi bien. Résultat, le cycle le plus économe d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle dure souvent plus de 3 heures et jusqu'à 4 heures et demie sur certains modèles. C'est tellement long que nombre d'utilisateurs se rabattent sur les programmes rapides, bien plus gourmands en eau et en électricité.
Donc là, au moins, on pourra avoir la durée du cycle le plus économe pour comparer les appareils.
Exactement. Cela va être un nouveau défi pour les fabricants, c'est de faire aussi bien, voire mieux qu'avant, au niveau performance énergétique, mais en moins de temps. Donc la petite horloge va nous donner une indication. La machine devra laver très bien avec le cycle éco, sans abîmer le textile ou la vaisselle pour avoir un résultat parfait. Et la durée sera un élément de compétition entre les marques.
Et Armelle, on se pose tous la question quand même. Est-ce qu'on fait réellement de vraies économies en achetant des appareils qui sont mieux classés ?
Alors, l'appareil A3+, aujourd'hui, qui passera B ou C au 1er mars, coûte plus cher à l'achat qu'un appareil plus gourmand en énergie, classé F. Simplement parce qu'il est bourré de technologie. Mais est-ce que le surcoût au départ est compensé à l'usage ? Et au bout de combien de temps c'est amorti ? Là, J'avoue que personne n'a pu me répondre. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'un modèle A+, qui va se retrouver classé D au 1er mars, les consommateurs vont se dire à ce modèle-là, il est quand même pas top. Donc ça va faire baisser les prix des appareils qui vont se retrouver tout en bas de l'échelle. Ils seront encore moins chers à l'achat. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en choisissant une classe supérieure, quand vous passez aujourd'hui de D à C ou de B à A pour un réfrigérateur, c'est 20% d'économie réalisée, pas sur la facture globale du logement, hein, mais 20% d'économie pour l'utilisation du frigo. Et pour la télé, en passant à la classe supérieure, vous réalisez entre 16 et 20% d'économie, ouais. Et pour le lave-linge, c'est 12-13% d'économie. Donc ce n'est pas rien, si vous faites l'effort de payer un peu plus cher au départ, vous réalisez entre 15 et 20% d'économie sur la consommation d'électricité de l'appareil.
Et cette étiquette énergie, on a maintenant 25 ans de recul. Est-ce qu'elle a vraiment porté ses fruits ?
Oui, c'est un vrai succès déjà, parce que tout le monde la voit dans les rayons, donc tout le monde la connaît. Et surtout, elle pousse vraiment les fabricants à innover. Les réfrigérateurs d'aujourd'hui consomment 75% d'énergie en moins comparé à il y a 25 ans, quand la première étiquette énergie avait été créée. Elle et la vaisselle consomment deux fois moins d'eau qu'il y a 10 ans. Donc le point positif de l'étiquette énergie, c'est qu'elle a forcé les industriels à proposer des modèles plus économes en énergie en les mettant en compétition sous l'œil averti des consommateurs qui font un geste pour la planète.
Et Armelle, une dernière petite question. Je me demandais en fait, avec les deux confinements, comme on était davantage à la maison, est-ce qu'on a acheté plus d'appareils électroménagers ?
Eh oui, vraiment. Hein. Le GIFAM, le groupement des fabricants français d'électroménagers, vient de publier ses chiffres. Il s'est vendu plus de 15 millions de gros appareils électroménagers l'année dernière. Mais pour stocker, les ventes de congélateurs ont bondi de 18%. Et les sèche-linges de 5% pour éviter d'avoir l'étendoir au milieu du salon en télétravail. Avec le temps passé à la maison, les ventes de petits robots multicuissons et les batteurs, les hachoirs ont aussi progressé de 27% pour faire soi-même ses propres recettes et préparations culinaires. Il s'en est vendu plus de 5 millions. Les aspirateurs aussi, près de 6 millions en croissance de 11%.
Incroyable.
On a fait le ménage pour être bien chez soi. Mais le plus grand boom des ventes, la plus grande progression en 2020, c'est, devinez quoi ?
Je sais pas.
La tondeuse pour les cheveux. Les ventes ont bondi de 50%. Donc c'est vous, hein, messieurs, qui avez contribué pour votre beauté, vu que les coiffeurs étaient fermés.
Merci beaucoup Armelle Lévy. C'est effectivement à l'image de notre société, tout ça et de ce que nous traversons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce samedi matin avec tous ces chiffres et c'était très éclairant. Est-ce que vous êtes, alors je sais que vous êtes adepte de pâte à tartiner, mais est-ce que vous êtes adepte de compléments alimentaires ?
Pas trop.
Vous vous méfiez un peu ?
Je me méfie, c'est ça. Il faut vraiment voir ce qu'il y a dedans. Hein.
Eh bien pourtant, on nous en vend. On va faire un point tout de suite avec Julie Martori. Je vous embrasse Armelle Lévy.
Moi aussi,
à bientôt sur
à bientôt.
RTL.
Oh, j'ai une pêche, les gars.
Wouh. Oh, moi aussi, j'ai une pêche, les gars. Bonjour, Julie Martori.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être
Merci.
Avec nous. Dans Nous voilà bien. Vous êtes journaliste spécialisée nutrition et bien-être à Top Santé, partenaire de l'émission. On va parler des compléments alimentaires. Écoutez, moi, je ne peux pas aller dans une pharmacie ou dans une parapharmacie sans qu'on me dise vous devriez prendre ci, vous devriez prendre ça. C'est quoi les compléments alimentaires ?
Alors, au niveau de la loi, il y a une définition très précise pour les compléments alimentaires. Il s'agit en fait de denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.
Mais on peut parler de médicaments ou pas ?
Non, justement, comme le précise cette définition, ce ne sont pas des médicaments, mais des denrées alimentaires. Après, ce n'est pas des aliments comme les autres. En fait, on dit souvent qu'ils sont un peu entre l'aliment qui nourrit et le médicament qui soigne. On va en prendre par exemple pour combler des carences nutritionnelles, pour soulager certains petits maux du quotidien comme des troubles du sommeil, le stress, une mauvaise circulation, ou pour de manière générale rester en bonne santé. Voilà.
On va se retrouver dans un instant, Julie Martori, parce qu'on va poursuivre évidemment ce tour d'horizon des compléments alimentaires. Certains doutent de leur efficacité, vous nous direz ce que vous en retenez, vous. Et puis, c'est vrai qu'on s'interroge, si on a une bonne alimentation, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir recours à ces petites pilules ? Ce sera dans un instant sur RTL, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Dans un instant, on se penchera sur les pâtes à tartiner. Mais pour l'heure, on est sur les compléments alimentaires.
Roule dans la paille, vitamine.
Petit revival, hein. Vitamine, vous vous souvenez, c'était une émission jeunesse sur TF1 entre 83 et 87, ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Julie Martory, on parle des compléments alimentaires parce que vous êtes journaliste spécialisée nutrition et bien-être à Top Santé. Vous nous l'avez dit, ce ne sont pas des médicaments. Est-ce que leur efficacité a été prouvée ?
Alors justement, comme ce ne sont pas des médicaments, pour être mis sur le marché, le complément alimentaire n'a pas besoin de prouver son efficacité. En fait, c'est pas la même procédure que pour un médicament qui doit prouver son efficacité et son innocuité aussi, bien sûr, avec des études. Le complément alimentaire, lui, pour sa mise sur le marché, c'est la DGCRF qui va contrôler tout ça. Elle va notamment vérifier que les substances qui sont dans le complément alimentaire figurent bien sur la liste des substances autorisées en France. Voilà, c'est comme ça que le complément alimentaire est mis sur le marché. Après, au niveau efficacité, c'est pas contrôlé. Voilà.
C'est quoi la DGCRF ?
Alors, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Ok, voilà. D'accord.
Après, même si l'efficacité n'est pas prouvée, il y a ce qu'on appelle des allégations santé qui sont autorisées pour certaines substances, pour certaines vitamines ou pour d'autres substances. Et là, c'est un autre organisme qui contrôle tout ça, c'est l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments.
D'accord.
Qui autorise ou pas telle ou telle allégation santé. Par exemple, pour l'immunité, l'allégation contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et autorisée pour la vitamine C, la vitamine D, le cuivre et le zinc. Donc, des compléments alimentaires qui contiennent ces substances peuvent mettre sur leur étiquette contribue au fonctionnement normal du système alimentaire.
Oui, en fait, les promesses marketing, ce n'est pas interdit par la loi, quoi. Notre alimentation, elle ne suffit pas à nous fournir les vitamines, les minéraux dont on a besoin pour être en forme ?
En théorie, on dit qu'une alimentation variée et équilibrée suffit à nous apporter tous les nutriments dont on a besoin. Après, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, on est peu à avoir cette alimentation parfaite. Et, il faut aussi savoir ce qu'elle est, parce que les recommandations aussi varient tout le temps. Donc, par exemple, si on mange peu de fruits et légumes frais, mais beaucoup d'aliments industriels qui apportent peu de nutriments, on risque d'avoir certaines carences. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en compte, comme le mode de vie. Si on est beaucoup stressé, si on fume, si on pratique beaucoup de sport, on peut avoir certains besoins en nutriments qui sont un peu plus importants. On peut avoir aussi des pertes qui sont un peu plus importantes.
Mais quelles sont les carences les plus fréquentes ?
Ah oui, alors il y a pas mal de carences. Il y a notamment la carence en magnésium, parce que voilà, on mange beaucoup d'aliments transformés, donc qui apportent peu de magnésium, mais aussi parce qu'on est stressé. Donc le problème avec le magnésium, c'est on en manque, on est stressé et ça nous fait perdre du magnésium. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Après, il y a aussi la carence en vitamine D qui est assez fréquente. Alors, pour rappel, la vitamine D, c'est celle que l'on synthétise en s'exposant au soleil. Donc, l'hiver ou si on habite dans une zone peu ensoleillée, on peut en manquer. Mmh. Après, il y a aussi la carence en fer qui est assez fréquente, notamment chez la femme, parce qu'on en perd tous les mois via les règles. Et aussi le calcium, les oméga-3, l'iode.
D'accord. Voilà. Donc en fait, il convient peut-être de faire une prise de sang tout simplement pour savoir de quoi on manque, quoi.
L'idéal, ce serait vraiment de faire avec un spécialiste, par exemple un micronutritionniste, un bilan. Après, on ne peut pas quantifier non plus tous les nutriments. Par exemple, le magnésium, c'est difficile à faire des dosages. Le fer, c'est facile. Et il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est notre capacité d'absorption au niveau intestinal de ces nutriments, parce qu'on peut manger tout ce qu'il faut, mais si nos intestins sont pas en très bonne forme, on va pas bien absorber, ça va jouer sur notre capacité à bien utiliser ces nutriments.
Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même certains compléments alimentaires qui peuvent avoir un rôle à jouer.
Oui, tout à fait. S'ils viennent compléter l'alimentation, ils ont un rôle à jouer. Après, il faut les prendre à bon escient, idéalement, voir ce dont on manque. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que les compléments alimentaires ne sont pas là pour remplacer l'alimentation. L'idéal, c'est bien sûr un peu de revoir son alimentation, d'autant que qu'il y a d'assez magique avec les aliments, parce que la nature est bien faite, c'est que dans l'aliment, les nutriments, en fait, se complètent les uns les autres, ils se potentialisent les uns les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet matrice nutritionnelle. Et ça, aucun complément alimentaire peut remplacer cette synergie, en fait.
Et comment on peut bien les choisir, ces compléments alimentaires, parmi tous ceux qui sont proposés? On peut être perdu aussi.
Oui, alors bon, il y a beaucoup de règles à respecter, mais l'une des principales, c'est de pas choisir un complément alimentaire qui propose une espèce de cocktail de 10 substances qui seront toutes faiblement dosées et au final auront peu d'effet. Si on manque de magnésium, on prend un complément à base de magnésium de qualité qui apporte 100 à 200% des apports journaliers recommandés, plutôt que voilà des cocktails un peu où on mélange un peu tout et qui au final a peu d'effet.
C'est sans risque les compléments alimentaires ou pas?
Non, c'est pas sans risque. Il y a bien sûr des effets indésirables, parfois des nausées, des maux de tête, etc. Oui, il y a l'ANSES régule un peu tout ça. Il y a régulièrement des alertes. Après, il y a des choses aussi plus graves, notamment des atteintes au niveau du foie. Quand certaines substances sont pas autorisées, il faut faire aussi très attention avec les plantes. C'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. D'ailleurs, certaines plantes sont utilisées dans des médicaments. Donc voilà, faut pas se dire c'est naturel, voilà, je peux en prendre.
Mais quelles sont les règles à respecter alors?
Alors déjà, la première, c'est d'acheter dans des circuits sûrs comme les pharmacies, parapharmacies, oui, et d'éviter vraiment Internet. Bon, il y a des sites sérieux, mais voilà, faut vraiment, tout ce qui est site étranger, etc., faut vraiment éviter, privilégier voilà des marques françaises, contrôler, voilà. Après, une autre règle, c'est d'éviter de prendre plusieurs compléments alimentaires en même temps, pour éviter les surdosages et les interactions entre eux. Après, okay, comme les médicaments, on respecte les podologies, les contre-indications. Voilà, si c'est un comprimé par jour, on ne va pas dépasser. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, enfin, sauf avis professionnel, un complément alimentaire, ça ne se prend pas tout au long de l'année. C'est vraiment sous forme de cure, voilà, de quelques semaines maximum. On va se méfier aussi des compléments alimentaires qui promettent une action très large ou vraiment qui affichent des promesses, guérir le cancer, vous fait maigrir. Ça, on sait que c'est clairement de la fraude, en fait. Le dernier conseil, je pense que c'est le plus important, c'est de vraiment demander conseil à son pharmacien si on achète en pharmacie, à son médecin, ou de voir un nutritionniste ou un micronutritionniste qui vraiment nous apportera la complémentation qu'il nous faut, en fonction de son état de santé, son mode de vie, etc.
Eh bien, merci beaucoup Julie Martori pour tous ces conseils éclairants, pas d'automédication. Merci encore à vous. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Top Santé, partenaire de cette émission. À bientôt Julie Martori.
Merci, au revoir.
Et nous, place à la gourmandise, ce sera dans un instant avec Patricia Chéropoulos.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous, bande de gourmands. Je sais que vous attendiez cette dernière séquence avec Patricia Chéropoulos, parce qu'on va parler de quoi? De la pâte à tartiner.
Moi, j'étais tellement accro au Nutella qu'il a fallu que je me fasse aider. Je pouvais pas faire autrement. Voilà, je me suis fait aider. Voilà, je veux pas honte de le dire, hein, ça, on est entre nous. Je suis humain comme tout le monde. Hein. Voilà, je me suis fait aider. J'étais au Nutella anonyme. Quoi? Voilà, bonjour, je m'appelle Manu.
Bonjour, Manu.
Bonjour. J'ai 32 ans et... Et je suis à 3 pots par jour.
Eh bien, c'est pas le seul, figurez-vous. Enfin bon, 3 pots par jour, faut pas déconner. Mais quand même, les pâtes à tartiner nous rendent un peu dingo. Est-ce que c'est bon, mauvais pour la santé? On a un peu la réponse, mais on va écouter Patricia Chéropoulos, qui est journaliste à 60 millions de consommateurs en charge de la rubrique alimentation. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Bon, et on peut se le dire, hein, la pâte à tartiner, c'est l'un des produits par excellence de la malbouffe, non?
Ah oui, malheureusement, hein, c'est sur le podium avec des choses comme les bonbons ou les colas, hein, ça c'est vrai, parce que c'est un produit industriel et puis ce sont, on va dire, des calories vides, hein, c'est gras et sucré surtout. Voilà.
Mais qu'est-ce que c'est bon?
Ah mais oui, c'est bien ça, c'est addictif, justement parce qu'il y a du gras et du sucré et que les industriels savent parfaitement trouver la bonne recette qui plaise à quasiment tout le monde.
Bon, en fait, cette malbouffe, l'idée, c'est pas de la bannir à tout prix, hein, mais plutôt de modérer notre consommation, c'est ça l'idée, mais c'est difficile, hein.
Oui, c'est ça. C'est qu'évidemment qu'on ne va pas se priver, surtout en ces temps un petit peu sombres, d'aliments réconfortants. Voilà, c'est des aliments réconfortants, ouais. C'est des aliments doudous, enfin ce qu'on veut. Ça fait du bien, évidemment. La règle d'or, c'est de ne pas en abuser. Donc, par exemple, si vous prenez deux tartines couvertes de pâte à tartiner, vous n'allez peut-être pas arroser ces tartines avec un soda. Voilà. On essaie d'accord. de trouver un peu juste milieu.
Mais c'est pas complètement idiot ce que nous dit Manu Payet dans son sketch quand même, parce qu'il parle d'une forme d'addiction, mais quand on a mis la cuillère dedans, on n'arrive plus à s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ils nous droguent avec leur pâte à tartiner ou quoi ?
Mais c'est justement cette fameuse combinaison gras et sucre, et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments. C'est ça, en fait, ça va stimuler le système de la récompense dans le cerveau, et via la dopamine, qui est un neuromédiateur du bien-être. Donc c'est comme ça qu'on tombe dans d'autres aliments gras et sucrés, ou gras comme la raclette, ou les gâteaux, les choses comme ça. C'est le sucré,
on va dire. Le même effet, quoi. Mais vous parlez de gras et de sucre, mais qu'y a-t-il en majorité ? Plus de gras ou plus de sucre ?
Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pense que c'est gras, mais c'est surtout très sucré, ces pâtes à tartiner. Hein. Ouais. Beaucoup plus que gras. Et ce qu'on a calculé, c'est que donc si on prend, on va dire, ces fameuses deux tartines avec 25 grammes chacune de pâtes à tartiner, hein, donc c'est 50 grammes, on arrive déjà à la moitié des apports recommandés de sucre libre, c'est-à-dire tous ces sucres, saccharose, glucose, tout ce qu'on trouve dans ce d'accord. qu'on appelle des cochons, enfin voilà, les bonbons et autres choses. Ouais. Donc ça va vite, hein.
On a beaucoup entendu parler aussi de la problématique de l'huile de palme, hein, qui est présente dans la plus célèbre pâte à tartiner. Ça a créé la polémique. Elle est particulièrement nocive et pour la nature et pour la santé. On en est où aujourd'hui ?
Alors oui, c'est vrai que l'huile de palme, bon, pour la santé, parce que bon, c'est vrai que ça favorise le dépôt du cholestérol sur les artères. Ça, c'est vraiment, si on en abuse, hein, c'est toujours pareil. Il en est que là, d'après nos études, c'est qu'il y a beaucoup moins, les fabricants, ils vont mollo maintenant sur l'huile de palme. On voit que la plupart des pots de pâte à tartiner que nous avons testés n'en contiennent plus. Il la remplace en fait par l'huile de copra, l'huile de tournesol, d'accord. et il trouve d'autres mixtures, mais pas l'huile. Enfin, il y en a encore un petit peu, et notamment dans le plus célèbre pot, on va dire.
Et il y a une autre polémique éthique qui se pose avec d'autres ingrédients.
Mais oui, parce qu'en fait, une pâte à tartiner, bon, on a dit que c'était du sucre, du gras. Évidemment, il y a aussi de la poudre, la pâte de noisette et de la poudre de cacao, plus quelques émulsifiants. Et c'est justement le cacao et la noisette qui posent aussi des problèmes. On en parle moins, mais c'est plus des problèmes d'ordre éthique, parce qu'on sait que notamment les plantations de cacaoyers, ben, c'est pas toujours, c'est très compliqué pour les petits producteurs. D'ailleurs, ils essaient de réclamer une hausse de salaire parce que ils sont vraiment quasiment au niveau du seuil de la pauvreté, hein, dans les pays comme la Côte d'Ivoire. Et pour les noisettes, il y a eu des enquêtes notamment sur les cultures de noisettes en Italie où les conditions des travailleurs étaient assez déplorables. Donc c'est pas parfait.
Hein. Non, mais ça vraiment, il faut le savoir. On ne sait plus véritablement vers quelle marque se tourner, la vérité, en ce moment. Il y a plein de pâtes à tartiner différentes. Comment vous avez fait, vous d'ailleurs, pour les tests ?
Alors, on a essayé de panacher. On a pris des marques de distributeurs, dans les marques nationales, les bio également, qui sont quand même de plus en plus présentes. Il y en a certaines même qui vont diminuer le sucre. Donc, on a un peu pris tout cela. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc, si on lit les étiquettes, bon, il y a quelques différences. C'est pas énorme. Évidemment, ça se joue surtout au niveau du goût. C'est pour ça aussi que nous les avons fait tester par 60 consommateurs à l'aveugle, voir un peu ce qu'ils ont pensé, moitié adulte, moitié adolescent, justement.
Ah bah voilà, c'est ça, mais enfin, moi je trouve qu'il n'y a plus d'âge dans ces moments-là. Et on peut se dire la vérité quand même, même si c'est de la malbouffe, c'était pas le test le plus désagréable que vous ayez eu à faire.
Non, oui, c'est vrai qu'on fait pire. Hein. C'est vrai que globalement, les gens n'ont pas été dégoûtés, loin de là. Hein.
Justement, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Alors, il en ressort, globalement, les gens aiment bien un goût un peu standard, c'est-à-dire pas trop sucré, pas trop gras. Ils ont trouvé globalement qu'elles étaient un peu trop sucrées, ces pâtes à tartiner. Alors, ça, c'est vrai, d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'aiment pas trop quand la noisette est trop importante. Parce qu'il y a des marques qui sont plus vertueuses, qui mettent justement davantage de pâtes de noisette, qui coûtent plus cher aussi, mais qui font cet effort-là. Et justement, c'est raté, c'est qu'elles se trouvent en queue de notre classement parce qu'elles n'ont pas été appréciées. En fait, les consommateurs aiment bien un goût juste équilibré, avec une texture très lisse, pas d'aspérité justement, et des grains noisettes, donc quelque chose finalement auquel on est habitué depuis le plus jeune âge, on va dire. Hein.
C'est ouais, un peu c'est ça, ça aussi. Et les pâtes à tartiner, est-ce qu'elles nécessitent autant en termes de goût, de quantité de sucre, de matière grasse que ce que les pots contiennent actuellement ?
Alors, comme on disait, c'est que matière grasse, finalement, ils ont baissé. Donc, c'est vrai qu'on est finalement, si on prend toujours nos fameux de tartines, on n'est qu'à 20% des apports de gras recommandés. Donc, c'est relativement raisonnable. D'accord. Mais le sucre, c'est vrai qu'il y en a trop. Et même au goût, les consommateurs trouvent que c'est trop sucré. Donc, effectivement, ils pourraient diminuer un petit peu. Bah, sauf qu'il y a aussi le côté addictif hein, dans le sucre. Et puis, c'est dans les formulations. Donc c'est... Mais certaines, effectivement, font un effort. Mais justement, celle qui a beaucoup de pâte de noisette, en plus, n'a pas beaucoup de sucre. Elle n'est décidément pas appréciée.
Voilà. C'est dingue. Hein. Voilà. Et les prix varient beaucoup d'une pâte à l'autre ?
Alors, on a une moyenne autour de 5 euros, on est au kilo, hein, pardon. Mais bon, donc globalement, puisqu'on a toujours un peu les mêmes ingrédients, mais là encore, bah, chez les côtés bio, évidemment, c'est plus cher, hein, puisque c'est toujours plus compliqué à cultiver, ce sont des matières premières en moindre quantité, et puis, évidemment, plus elles vont mettre du cacao ou de la noisette, là encore, plus ça va être cher. Donc certaines sont autour de 18 euros le kilo, mais c'est très rare. Hein. La plupart okay. du temps, c'est très accessible.
Les efforts de certaines marques pour améliorer la qualité de leur pâte à tartiner, est-ce qu'ils ont été payants au final ?
Ben non, justement, c'est ça qui nous a un petit peu déçus. Plus de cacao, moins de sucre, plus de noisettes, ça ne marche pas parce qu'on on aime ce goût voilà, modéré, ce goût qui plaît à tout le monde. Globalement, on reste là-dessus.
Hein. Voilà, de ce côté-là, en fait, ça ne fait pas un pli. Quoi. On a beau faire des efforts, on aime finalement ce qui ne nous fait pas tant de bien que ça. Et c'est comme ça que ça se passe et ça fait partie des résultats de votre enquête que l'on retrouve donc dans 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup, Patricia Chiropoulos. Je penserai à vous à la prochaine cuirée sucrée comme ça. Merci beaucoup et à très bientôt sur l'antenne d'RTL, Patricia.
Au revoir.
Au revoir. Et on se fait bien sûr des bisous, car nous voilà bien, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous sur l'appli RTL pour notre replay. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end bien au chaud à l'écoute d'RTL. Moi, je vous embrasse. Bon week-end.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.